je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il n'y a pas de meilleure méthode ou une méthode qui surpasse les autres, mais il y a une que je déteste et je vais le dire tout de suite et puis comme ça j'en parlerai plus, c'est...
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Alors avant de commencer l'épisode, laissez-moi vous parler d'une nouveauté sur Vendu qui pourrait bien changer la donne pour vous et votre équipe. Une étude a démontré dernièrement que près de la moitié de vos deals sont perdus juste après le premier rendez-vous. Dans un contexte économique difficile, associé à un marché saturé, vos taux de conversion vont fortement dépendre de votre capacité en interne à réussir vos rendez-vous commerciaux, mais aussi à surmonter l'indécision de vos prospects. Pour augmenter vos taux de closing, j'ai créé les Review Sales Meetings. C'est une solution directement inspirée de mon expérience de directrice commerciale, ayant signé près de 3000 clients de taille et de secteurs différents. En fait, j'accompagne les commerciaux en leur fournissant des conseils sur mesure pour chaque étape du rendez-vous et un plan d'action pour implémenter mes recommandations. Comment je fais ? J'écoute tout simplement les enregistrements de leur rendez-vous et j'en tire une analyse complète. Alors si vous souhaitez améliorer les techniques de vente de vos commerciaux, lancer une nouvelle offre ou démarcher un nouveau segment, rendez-vous sur www.vendu.fr, cliquez sur « Faire analyser mes rendez-vous » et laissez-vous guider. Allez, on va retrouver notre invité. Je vous souhaite une bonne écoute. Ok, aujourd'hui, je suis à nouveau avec Laurent Sebarek, qui est déjà venu sur ce podcast-là. C'était... Premier invité en fait que j'ai eu sur Vendu quand j'ai décidé de lancer les interviews. Comment tu vas, Laurent ?
Je vais super bien. Merci Laetitia et merci de me réinviter. Je m'y attendais pas.
Non, c'est normal, c'est normal. Déjà en fait l'épisode qu'on avait fait ensemble sur comment éviter de se faire ghoster, il a cartonné et voilà. Et puis en plus c'était un des meilleurs que je connais en vente. En France, donc bon, c'était évident que je te rappelle. En fait, en ce moment, j'essaie d'aborder beaucoup de sujets liés au closing. Il n'y a pas tant de personnes qui sont bons en closing. Alors, évidemment, beaucoup de gens parlent de différentes méthodes. Il y a plein de méthodes, Medic, Bant, enfin, toutes les, il y a plein de noms différents. Donc, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver, quelle est la meilleure méthode, qu'est-ce que je devrais utiliser, etc. Je t'ai fait venir pour parler d'une méthode en particulier que j'aime particulièrement, qui est une méthode que tu m'as pas mal aussi enseignée, qui est Spiced. Donc, je vais te laisser en parler, etc. La plusieurs raisons pour lesquelles je l'aime bien, c'est que, elle permet en fait de reprendre en fait toutes les méthodes qu'on connaît depuis des années et des années dans une méthode. Et deuxièmement, elle est assez transversale, c'est qu'elle ne s'applique pas uniquement pour les sales, mais s'applique aussi également pour les profils CSM, pour le Customer Success Management, pour le marketing. Donc, c'est un peu un framework qu'on peut utiliser de manière transversale pour tout son go-to-market. Donc, je voulais qu'on parle de ça ensemble, si t'es OK.
Oui, bien sûr. Merci, Laetitia. Et merci pour les fleurs. C'est très gentil. Du coup, mon fond rose et moi, on peut presque se jumeler tellement je suis rouge. Donc, c'est cool. Et si tu le permets, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant que il n'y a pas de meilleure méthode ou une méthode qui surpasse les autres, en vérité, à mon sens. Mais il y a une que je déteste et je vais le dire tout de suite. Et puis, comme ça, j'en parlerai plus. C'est Bant. Voilà. Si vous me parlez de Bant, vous pouvez être sûr que je vais arrêter de discuter avec vous. C'est mort. Ne me parlez pas de Bant. Ça me fatigue. Je comprends même pas. C'est comme si on était resté en 1800. Bon, bref. Maintenant que j'ai dit ça, on peut y aller. Et je vais juste préciser encore une chose. L'avantage de Spiced, si on doit parler d'un avantage ou l'intérêt, c'est qu'effectivement, c'est au-delà d'être un framework, c'est un langage commun pour toute l'entreprise. Et c'est ça qui est puissant, c'est ce qui permet d'aligner tout le monde. Et ce qu'on recherche dans une entreprise, c'est que tout le monde parle le même langage pour parler d'un lead, pour parler d'un sales qualified lead, d'un marketing lead. On parle tous de la même chose et avec les mêmes critères. Alors que toutes les autres méthodes, même si elles semblent pouvoir parler à tout le monde dans l'entreprise, en vérité, elles créent des silos. Donc c'est la grande différence, je ne vais pas dire que c'est un avantage, mais c'est la grande différence.
Ok. Du coup, est-ce qu'on peut parler du coup de Spice ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que chaque lettre signifie un mot. Et ensuite, peut-être rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que tu peux nous préciser ça ?
Oui, bien sûr. Alors, Spice, donc S pour situation, P pour pain, I, parce que j'ai oublié la lettre, I pour impact, C et E, en fait, c'est pour une seule et même chose qui est critical event, et le D pour tout ce qui est décision, décision. Alors, les critères de décision, on va arrêter de faire des anglicismes, critères de décision et processus de décision. Ce qui est intéressant dans ces cinq lettres, à peu près, en six en vérité, c'est qu'elles permettent de structurer la connaissance sur une entreprise, sur une personne qu'on va contacter, et justement, je parlais de langage commun, en fait, de véhiculer cette connaissance tout au long du processus de vente, que ce soit au niveau du marketing, quand on va aller chercher tout ce qui est logique de, on va dire, de notoriété, de création de lead, et puis ensuite, quand on va passer au customer success pour transmettre les informations. Donc, ça veut dire que je vais connaître la situation de mon prospect, je vais comprendre son pain, ce qui veut dire que j'ai fait un travail en amont qui est souvent négligé ou pas mis en avant de la préparation, et puis, je vais aussi comprendre ce qu'on appelle l'impact, mais on pourrait le dire autrement, c'est-à-dire les résultats, les répercussions. Certains vont parler de valeur, mais je vais pas mettre le mot valeur. Mais c'est vraiment répercussion, impact, conséquences positives pour mon interlocuteur. Et puis le critical event, c'est aussi un élément majeur qui est le fait de déterminer à quel moment on veut obtenir, ou du moins le prospect veut obtenir les résultats. Parce que ça, et on va y revenir un petit peu après, c'est vraiment clé. Et puis bien sûr, toute la logique de comprendre la manière dont la décision se prend. Et si tu me permets, je vais un tout petit peu aller du côté customer success. C'est que pour le customer success, en fait, on pourrait penser qu'il a les informations, ça s'arrête là. En fait, non. Une fois effectivement qu'on a fait le transfert ou le relais au customer success, il revient au customer success, en fait, de vérifier l'alignement par rapport à la situation de départ et la situation voulue par le client. Est-ce que les pains ont changé d'ici là? Parce que celui qui a signé le contrat n'est pas forcément celui qui va utiliser. Et le customer success est plus en relation avec celui qui va utiliser. Donc, il y a sûrement des pains qui sont différents, des impacts qui sont différents. Donc, c'est important que le customer success, avec cette matrice, puisse continuer à poser des questions pour être sûr de délivrer l'impact, de délivrer les résultats. Donc, je voulais juste donner déjà cette ligne de pensée qui permet tout de suite de montrer que tout le monde a intérêt à l'utiliser et va parler le même langage grâce à ça.
C'est vraiment ce qui est intéressant pour ce framework-là. C'est pas le cas pour Medic, c'est pas le cas pour Bant, c'est pas le cas pour tout ça. Du coup, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur deux lettres qui pour moi sont la raison pour laquelle j'aime particulièrement et que c'est un bel outil de vente, un bel outil de closing. Je parlerai du I. Qui est l'impact, et le C et le E, qui est le critical event, parce que pour le critical event, il y a deux sortes de critical event, on en parlera, et je trouve ça hyper intéressant, et là j'aimerais bien qu'on rentre dans ce détail-là, parce que même moi j'aurais des questions à te poser à l'aune de closing que je fais, parce que pour les auditeurs, ils savent que effectivement autant j'accompagne des boîtes, mais autant je suis encore sur le terrain. Du coup, sur la partie impact, justement, je sais que quand je présente par exemple ce framework aujourd'hui, il arrive en fait à des gens de ne pas comprendre tout de suite qu'est-ce que tu entends par trouver l'impact. Tu vois, comment tu trouves l'impact quand tu es dans un rendez-vous de closing? Alors, on dit toujours que faire réussir un rendez-vous, c'est poser des questions. Du coup, c'est poser les bonnes questions pour avoir les informations. Quelles sont pour toi les questions que tu poses? Où tu poserais, évidemment, ça dépend du secteur, mais pour avoir l'impact, ce fameux impact. D'accord. Pour pas avoir quelque chose de bullshit, tu vois ce que je veux dire?
Ok, si tu me permets, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur, finalement, ce qui est vraiment important à retenir et ce qui va permettre d'aider au closing, c'est que ce framework-là, et peut-être comme d'autres, hein, peut-être, non, pas Bant, c'est sûr, il est vraiment tourné vers le client. On est vraiment dans une logique centrée sur le client et d'aider le client. En fait, c'est une des choses fondamentales, et ce qu'il démarque également aussi, c'est qu'il a été pensé pour les entreprises SaaS, même s'il peut s'appliquer à d'autres types de secteurs ou de secteurs d'activité. Maintenant, pour répondre précisément à la question sur le I, dans le I, il y a deux dimensions, effectivement. La dimension rationnelle, tout ce qui est mesurable, et la dimension émotionnelle, tout ce qui est effectivement lié à l'expérience. Pour poser ces questions-là, et c'est pour ça que je voulais revenir en arrière, c'est que bien souvent, c'est lors de la découverte que ça se joue. Quand on arrive au closing, on va simplement rappeler les impacts souhaités par l'interlocuteur et effectivement, les moments critiques c'est-à-dire le moment critique ou l'événement critique, pardon, pour arriver à ce résultat. Maintenant, je vais répondre à ta question précisément. La meilleure question d'impact, c'est la question où on va utiliser le mot impact, vraisemblablement. Quel impact cela aurait pour vous de, tout simplement. Ou alors, quelles seraient les répercussions de. En fait, il faut simplement, après avoir établi la cause profonde du pain, c'est-à-dire le moment où, en vérité, on passe vraiment le contrat avec l'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il a compris qu'on s'intéressait vraiment à lui, qu'on avait déterminé ensemble la cause profonde du pain, et qu'on allait traiter ce pain, qui peut être aussi dans deux dimensions, voilà mes doigts, pain émotionnel et pain rationnel. Une fois qu'on a établi ce contrat avec lui de compréhension, on va pouvoir effectivement poser la question de quel est l'impact de la résolution, quel est l'impact négatif, donc il y a un impact négatif aussi, un impact positif. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment poser ces deux questions-là. Et le corollaire que tu as établi, qui est super intéressant, c'est oui, si j'ai un impact, il faut bien qu'il arrive à un moment. Il faut bien qu'il soit déterminé à un moment. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent, et moi y compris, c'est de poser la question de à quel moment vous voulez mettre en place. Non, ce n'est pas à quel moment vous voulez mettre en place. C'est à quel moment vous voulez obtenir ce résultat. À quel moment vous voulez obtenir ces répercussions. À quel moment on change la vie de votre entreprise, la vie de votre équipe et votre vie à vous. Par exemple, quand je dis la vie professionnelle, hein, je précise, on n'a pas l'ambition de changer la vie des gens juste avec une vente. Mais c'est clairement ça, c'est quelle est la nature de l'impact, quel impact cela va avoir pour vous, quelles répercussions possibles, qu'est-ce que vous envisagez, comme répercussions. C'est typiquement ce type de questions, et quand je parlais tout à l'heure de... Ah non, on l'a pas là, mais si. Quand on parlait tout à l'heure de les questions qui nous dérangent, c'est typiquement une question qui nous dérange. Quel impact ça va avoir ? Ce qui est différent de quel impact ma solution va avoir pour vous.
Ok. Qu'est-ce que tu fais comme différence exacte ? C'est quoi la
différence ? La différence, c'est que quand je dis... Quand je vais dire quel impact ma solution va avoir pour vous, je me remets au centre. D'accord ? C'est ma solution et l'impact qu'elle va avoir pour vous. Ma solution. Alors que la vraie question, c'est quelle solution, quel résultat vous souhaitez obtenir, vous ? Et donc là, je suis vraiment customer-centric. Et l'idée principale, effectivement, c'est de relier les points. C'est comment ma solution peut vous aider à obtenir ça ? C'est différent dans la formulation, c'est différent dans la pensée et c'est différent dans l'action.
Très clair. Il y a un sujet tout à l'heure que tu as abordé, c'est qu'on parle d'impact émotionnel et d'impact rationnel. Alors, peut-être pour préciser un peu pour les gens, parce que vous vous dire, attendez, ces gens-là, ils se prennent pour qui ? Ils se prennent pour des psys, on parle d'impact émotionnel, etc. Moi, ce que j'aime bien... Non, mais en fait, ce que j'aime bien... alors, ce n'est pas toujours évident. Hein, je pense que c'est ça qui fait la différence entre, je pense, les bons sales et les très bons sales. C'est-à-dire de trouver cet impact émotionnel et cet impact rationnel, de pouvoir le trouver pour la personne. Quand on a des rendez-vous avec plusieurs personnes, pour les trouver pour chacune des personnes. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que tu peux en dire plus, justement, sur quel type d'impact émotionnel, parce que peut-être que les gens ne comprennent pas de quoi on parle, là, etc. Le type d'impact rationnel, donner des exemples. Et peut-être aussi également de comment, quelles sont les questions que tu vas essayer d'amener pour pouvoir essayer de déceler, parce que ce n'est pas la même chose de savoir qu'est-ce qui est important pour une personne et qu'est-ce qui est important pour une entreprise.
Ok, alors je vais faire une digression. À chaque fois, je vais faire des digressions, je crois, mais j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps.
C'est ton truc, ça, c'est de revenir en arrière.
J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps qui parlait de psychologie dans la vente. Ça m'a fait tellement rire. Dédicace à Vincent, si jamais tu écoutes ce podcast, ça m'a fait tellement rire. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Bon, on n'est pas des psychologues dans la vente. Faut qu'on soit sûr de ça déjà. Sinon, on ne ferait peut-être pas ce métier. Mais si certains sont psychologues et qui sont dans le sales, c'est génial. Hein, et je pense qu'ils peuvent appliquer des méthodes. Mais l'idée, effectivement, c'est quoi ? On n'est pas là pour... Alors, on est des coachs, en fait. Le sales est un coach. C'est quelqu'un qui va coacher, c'est quelqu'un qui va aider à formuler et à découvrir des possibilités différentes pour son interlocuteur. On est dans un rôle de coach. Pas un coach life, mais un coach business. Donc, c'est différent. Donc, effectivement, on se doit de comprendre les différentes dimensions de notre interlocuteur. Et dans ces dimensions, il y a bien sûr tout ce qui est rationnel, mesurable, etc., qui est... bizarrement, le système du cerveau, parce qu'il y a deux systèmes dans le cerveau, le système du cerveau qui est toujours en arrière. Parce que si je te dis 2 x 2, tu vas me dire 4. Mais ça, c'est pas du rationnel. c'est idiomatique, c'est de l'émotionnel. Et c'est ce système-là qui est toujours en avant. Si je prends... Pardon, je fais tomber mon phone. Maintenant, je te dis 17 fois 35, là, on part en arrière et le rationnel se met en fonction. Et lui, il est très, très dur à mettre en fonction. Et en général, on ne veut pas le mettre en fonction. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est ce qui explique aussi que toutes les décisions, pour la plupart, sont émotionnelles. Elles sont toutes émotionnelles. Et ensuite seulement, on les justifie. Parce qu'on ne pourra pas pouvoir dire à son patron « Je passe des week-ends à faire des reports, ce serait trop bien qu'on achète ce nouveau CRM ou ce nouvel ATS ou peu importe. » Par contre, on peut dire « On va gagner plus de visibilité, on aura des chiffres consolidés et blablabla et blablabla et tout ce qu'on veut pour le justifier. » Alors que le fond du problème, c'est que ça, c'est une expérience, et c'est ça l'émotionnel, c'est une expérience négative. C'est une expérience, c'est la relation que je vais développer avec les gens de mon entreprise à cause de la situation dans laquelle je me trouve, donc du pain que j'ai. C'est la situation avec mes clients internes, externes, donc cette expérience que j'ai avec eux, le stress que ça me génère. Tout ça, c'est émotionnel. Et ça, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est compliqué. Souvent, on va confondre l'émotionnel avec la vie privée. Pas du tout. C'est comment ça se passe en termes d'expérience, qu'est-ce que ça me procure comme sensation dans mon travail. Rôle, mission, tâche.
Donc typiquement, par exemple, si je donne un exemple en fait, qu'on peut rencontrer, c'est j'ai un prospect qui a... J'identifie que son problème, c'est de vouloir monter dans la hiérarchie, de montrer en fait, qu'il peut prendre de bonnes décisions, qu'il peut faire gagner du temps à des gens, bien se faire voir, qu'il a envie de se faire mousser, qu'il veut... voilà. Ça peut être quelqu'un qui a justement envie de moins travailler ou quelqu'un qui a envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. En gros, c'est des choses très basiques que souvent, nous, on a pu ressentir dans nos vies professionnelles. Et du coup, en fait, bah, c'est de détecter ça parce que ça va avoir en fait, un impact dans notre capacité à se dire « Ok, cette personne-là, peut-être que mon outil peut être une concurrence, par exemple, à son métier. » Ça peut être souvent le cas, par exemple. Parfois, si on n'arrive pas à déceler ça, moi, ça m'est déjà arrivé de vendre quelque chose et de me rendre compte pendant que je suis en train de poser des questions. « Mince !» Cette personne-là va pas trop aimer mon produit. Elle en a besoin. Mais là, tout d'un coup, elle se dit que peut-être ça va challenger en fait, une partie de son poste, une partie de ses missions. Donc, c'est aussi important parfois de comprendre. Par exemple, quand tu as quelqu'un en face, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui, justement, ont voulu montrer qu'ils peuvent faire autrement, mieux et qui sont toujours là pour montrer, enfin, pour apporter des solutions gagnantes pour l'entreprise. Voilà. Et puis tu vas avoir l'inverse, tu vas avoir des gens qui ont justement peur de plus être, utile, de plus être nécessaire, etc. Et donc du coup, tu vas devoir avoir une approche un peu de la vente un peu différente. Donc ce n'est pas de la psychologie, mais c'est quand même parfois, tu ne vas pas positionner ton produit de la même manière, tu vas faire attention en fait à comment tu vas le présenter, présenter les bénéfices de telle sorte que la personne ne se sente pas menacée. Et si tu ne captes pas ça, c'est compliqué.
C'est exactement ça, et c'est pour ça que je te parlais de coaching. On coach des clients. On coach des clients pour leur réussite. Et la manière dont on va amener une proposition de valeur, grâce à ce framework SPICED, c'est de dire, en fonction de cette personne, de son pain, ou de ses pains, émotionnels, rationnels, des impacts possibles pour elle, émotionnels, rationnels, je vais mettre en avant ma solution de telle manière. Parce que ma solution... Elle a peut-être pas simplement une proposition de valeur, mais plusieurs possibles. Et chaque personne qui est dans l'entreprise ou dans le circuit de décision va avoir, bien sûr, des pains différents, des impacts différents et même des critical events différents, des événements critiques différents. Pour revenir sur la question que tu m'as posée, c'est quel type de question pour les impacts rationnels ? Bah, c'est tout ce qui est mesurable. Donc, logique de coût, logique de... Alors, diminution de coût, amélioration de la productivité, volume d'affaires, chiffre d'affaires, croissance, tout ce qui est mesurable, c'est rationnel. Donc, on va poser des questions de ce type-là, qui sont liées à ça par rapport à l'impact. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre avec ce changement de processus ? Est-ce que, par exemple, c'est plus 20% de croissance, diminuer le coût de X ? Voilà le type de questions qu'on peut être amené à poser. Et pour l'impact émotionnel, même type de question, mais liée à l'expérience. Tout simplement. Donc, on pourrait dire, évaluez-vous le fait de ne plus avoir à travailler le soir sur certains rapports. Bien sûr, on ne va pas poser exactement cette question, mais c'est juste pour caricaturer. Hein. Mais ça donne vraiment la teneur du truc. Je dépasse un peu maintenant, je dépasse ta question, si tu me permets. Parce que je sais bien que tu vas aller là, tu vas parler du Critical Event, c'est ça?
Non, pas encore, j'allais
aller alors, en arrière. Alors vas-y.
Cette fois, c'est moi qui allais aller en arrière. Non, 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 en fait, moi j'ai tendance, alors justement, parce que je voulais parler de deux choses sur la partie impact, parce que l'impact émotionnel ou rationnel, déjà, est-ce qu'on peut se dire comment tu fais quand tu as plusieurs personnes, ça je t'ai déjà posé comme question, tu as plusieurs personnes en rendez-vous, comment tu fais pour justement, tu poses la question de manière caricaturale. Encore une fois, on le dit aux éditeurs, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, mais bon, c'est pour vous donner un exemple concret. Qu'est-ce que vous diriez, quelles répercussions ça pourrait avoir de plus travailler sur ce sujet 2-3 fois par semaine, voilà, par exemple. Quand tu as plusieurs personnes, ça n'a pas les mêmes impacts pour tout le monde. Comment tu fais? Comment tu t'amènes le truc? Tu poses la question de cette manière à dire pour chacun d'entre vous, tu relances la personne pour avoir les éléments pour tout le monde. Est-ce que, j'ai envie de dire, dans ton board, dans ta checkbox, tu te dis, il faut que j'ai ces éléments-là pour chaque personne, ou bien tu vas aller cibler le décisionnaire ou le champion? C'est ça qui va t'intéresser.
Alors, en fait, et merci parce que tu as pratiquement répondu à la question, en fait. C'est effectivement, quand on a plusieurs personnes dans une pièce qui sont amenées à statuer sur un projet, il y a forcément quelqu'un qui est le leader que tout le monde va écouter d'une certaine manière. Donc, il va être ce qu'on va appeler l'economic buyer ou le décisionnaire, peu importe. Mais dans cette idée-là, quelqu'un à qui tout le monde va faire allégeance, entre guillemets. Et il est fort possible que nous n'ayons jamais eu de contact avec lui de manière très claire. Il est possible que ce soit notre champion. Le champion peut avoir plusieurs rôles, mais il est fort possible que sur des deals complexes, cette personne, on n'ait jamais pu lui parler. Ce qu'il faut faire absolument, parce que c'est là où se joue la vente, c'est avant ce meeting, bien sûr, c'est le préparer avec le champion, et avoir le plus d'informations possible sur les pains de cette personne et les impacts de cette personne. Et si possible, demander au champion s'il est possible de contacter cette personne, même par email, et dire à cette personne, voilà, on va se rencontrer tel jour à telle heure pour ce meeting, pour parler de ce projet. J'aimerais vraiment que cette réunion vous soit profitable. Quels sont les points que vous souhaitez absolument traiter? Et on peut aller un petit peu plus loin. Quels sont les points que vous souhaitez absolument traiter, que vous souhaitez absolument que je vous montre, et pour quelles raisons vous souhaiteriez les voir, et quel impact positif ou négatif cela générerait pour vous. Et donc, vraiment, poser la question. Et à partir de là, une fois que c'est fait, et là, c'est le truc absolu dans la vente complexe, c'est, parce que c'est du multi-sourcing, puisque je discute avec mon champion, je discute avec lui, je discute avec un autre. Là, une fois que j'ai ma réponse, parce qu'il est possible qu'il réponde, c'est ce qu'on veut, hein, une fois que j'ai ma réponse, j'envoie un email à tous les autres en disant que j'ai ajouté à l'agenda ces éléments-là parce que X, qui est le décisionnaire, ou Y, souhaite voir ces points-là. Et là, on aligne tout de suite la réunion sur pain et impact du décisionnaire, parce que tout le monde va faire allégeance à cette personne, sans minimiser à certains moments le fait qu'ils aient des pains différents et des impacts différents. Mais on va s'en servir, parce qu'on est toujours dans une logique de multi-swing, comme appui, et notamment si le champion est là, parce que le champion doit être là à tous les rendez-vous importants, pour, en fait, un, que le champion nous introduise, et donc aligne, et deux, pour que, à certains moments, le champion valide les hypothèses qu'on est en train d'émettre. Et donc, soit sur les pains, soit sur les impacts. Ce qui permet, en fait, à chaque fois, de ne pas être celui qui vend ou qui peut être vu comme le vendeur, mais d'être un expert. C'est pour ça qu'on veut que le champion nous introduise. Et deux, que le champion aligne par rapport à la réalité terrain. Parce que c'est ça aussi qui compte.
Nickel, très intéressant. Il y a une question, alors, avant de passer au Critical Event, parce que en fait, généralement, quand on aborde ces questions de spiced, ou de médic, spin, on se dit, OK, c'est peut-être des trucs un peu théoriques comme ça, mais en fait, concrètement, quand je suis dans la vraie vie, d'accord, je prépare mon rendez-vous, OK, je prépare mes questions, mais comment toi, je ne sais pas si tu le fais, j'imagine qu'aujourd'hui, tu le fais un peu de manière intuitive, mais on va dire, mets-toi dans la peau d'un noob, d'un débutant. T'es là, tu veux mettre en place cette méthode là en fait pour pouvoir closer ton prospect, comment tu t'assures pendant l'entretien que tu as tous les éléments S, P, I, C, E, D.
Ok, je vais les gens vont me prendre pour un teubé, je le dis. Moi, je vais faire un truc tout simple. Tout simple.
Non, mon mais rendez-vous, en fait, on veut des trucs simples.
Voilà, mon rendez-vous est prêt avant que je le fasse. C'est simple. J'ai préparé mon rendez-vous, j'ai mes questions S, j'ai mes questions pain, j'ai mes questions d'impact, j'ai mes questions de critical event, tout est prêt. J'ai mes questions de decision process, tout est prêt. Et je répète encore une fois, au cas où les gens n'aient pas entendu, tout est prêt. Je ne peux pas aller à un rendez-vous si ce n'est pas prêt. Si je fais un rendez-vous comme je faisais à mes débuts au talent, ça ne marche pas, c'est fini. On peut avoir tout le talent qu'on veut, on va ressortir avec très peu d'informations. Et donc, j'ai ma préparation, et puis à la fin, j'ai ma checklist. Est-ce que j'ai bien ça? Et donc, simulation. En gros, on va simuler. J'arrive, je fais mon introduction, mon ouverture de rendez-vous, dont on a déjà parlé la dernière fois, tu sais, le fameux ACE, avec le but du rendez-vous et le what else. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir y aller. Et, ah oui, j'insiste sur un truc. La vente, c'est aussi du leadership. On peut parler de toutes les méthodes qu'on veut, mais je parlais de coach.
Il y a la posture.
Coach, voilà, le coach, voilà. Cette posture de coach, elle est intéressante parce qu'on a du leadership. Donc, c'est-à-dire qu'on dirige l'entretien. Et dès le début, je vais diriger l'entretien avec mes questions de situation. Et là, soyez attentifs, pas plus de 2 ou 3 questions. Arrêtez avec les 10 questions de contexte sur la taille de l'effectif, où sont les usines et machin et machin. Si vous posez toutes ces questions-là, ça veut dire que vous n'avez pas préparé votre rendez-vous. Ou alors très mal. Toutes les questions.
Et puis en fait, personne n'a envie d'être dans un... Même nous, si tu nous poses 30 questions en entrée, parce qu'on... Je sais pas, on pense que c'est encore des phrases bateau, mais moi, j'y crois vraiment. C'est une discussion, un rendez-vous de vente. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu commences avec 30 questions d'un coup, ça s'appelle plutôt un sondage d'Anone qu'une discussion.
Oui.
Voilà, puis, une enquête de satisfaction.
Et puis, l'autre truc, c'est que c'est une discussion. Tu dois avoir l'impression d'avoir une discussion avec presque ton meilleur ami. Le coach, quelque part, c'est presque ton meilleur ami. Donc, un sel, ça doit être un coach, et il arrive et il pose 2 à 3 questions de situation. Mais ces questions, c'est pas toutes les mêmes. Parce que souvent, les commerciaux vont dire, ah bah, c'est toujours les mêmes questions. C'est, alors, combien vous avez de personnes dans votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà un logiciel de gestion? Et puis, je sais pas, moi, je vais dire une bêtise. Et combien de personnes dans votre équipe? Et on va se dire que ces 3 questions-là seraient potentiellement toujours les mêmes. Déjà, elles sont mauvaises, ces 3 questions. Pourquoi elles sont mauvaises? Parce qu'elles n'ont pas de contexte, elles ne montrent pas que j'ai fait une recherche. C'est comme quand on envoie un message, peu importe le canal, on montre qu'on a fait une recherche et qu'on s'est intéressé vraiment. C'est ça la recherche, ça veut dire qu'on s'est intéressé vraiment et donc qu'on a des hypothèses. Donc, quand je vais arriver, je vais dire, j'ai remarqué Laetitia que tu avais créé Vendu, et si je comprends bien, Vendu c'est aujourd'hui plus de 300 podcasts, c'est ça? Tu vas me dire non ou tu vas me dire oui? Mais même si tu me dis non, c'est pas grave. Ce que je veux que tu saches, c'est que j'ai pris le temps de rechercher et que j'ai pris le temps de comprendre qui tu étais. D'accord ? Il y a combien de podcasts vendus d'ailleurs ? C'est combien ?
Il n'y en a pas 300, heureusement. Pour l'instant, il y en a. je pense qu'il y en a à peu près 70. Enfin, je vais arriver à 70.
T'inquiète, tu vas arriver aux 300 dans pas longtemps. Mais cette question, elle n'est pas anodine. Parce que je te prépare à la suite. Et donc, je vais te poser maintenant une deuxième question qui va être... Et j'ai vu également que la plupart de tes auditeurs, ce sont des sales. C'est bien ça? Et tu vas me dire, là, tu vas me dire oui. Et ces deux questions, elles sont là pour préparer ma question de pain, qui est ma première hypothèse formulée dans ma préparation. Je ne t'ai pas posé 2 questions basiques, je te pose 2 questions qui vont te permettre de me répondre plus facilement. Parce que beaucoup de commerciaux, et ça aussi, ça me fait rire, je suis désolé, mais aujourd'hui, je suis en mode énervé, beaucoup de gens qui disent qu'il faut poser des questions ouvertes. Poser des questions ouvertes, poser plein de questions ouvertes. Non, arrêtez avec les questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est tellement précieux qu'il ne faut pas les gâcher. Donc, on ne peut pas poser une question ouverte à quelqu'un pour qu'il puisse répondre à peu près ce qu'il veut et qu'on nous, on fasse le tri dedans en train d'écrire « Ah, il a dit ça, il a dit ça ». Ça ne sert à rien. Ton rendez-vous, il est déjà raté, en fait. Si tu es en train de piocher dans ce qu'il a dit, tu dois le guider. Et c'est pour ça que les questions fermées existent. Je suis en train de te guider vers ce sur quoi je vais te poser la question. Et la question de Payne, c'est « Et comment tu fais pour t'assurer de la qualité de ton podcast, vu que tu en as déjà fait 70, pour qu'à chaque fois la qualité soit au rendez-vous? Comment tu fais? Tu vois?
Je reviens des gens.
Voilà. Et ça, ma question de peine, t'as les réponses.
J'ai dit, oui, j'ai répondu, je fais revenir des gens comme toi.
D'accord. Et tu vois, ma question de peine, elle découle naturellement de mes questions de situation, et mon interlocuteur voit déjà, ou du moins, est déjà préparé à répondre à cette question de peine. Elle peut ne pas être bonne, ma question de peine, me dire « Non, mais moi, j'ai pas ce problème, nanana, nanana, tout ce que tu veux. » Et dans ce cas-là, ok, une hypothèse que je peux rayer, mais comme j'ai préparé au moins trois, on voit pas mes doigts, mais trois questions de peine potentielles pour justement continuer et l'emmener là où je veux l'emmener par rapport à ce que j'aimerais avoir comme entretien avec lui, comme conversation avec lui. Et en fait, c'est ça qui fait la grande différence dans cette méthode, c'est que je pose pas, mes questions ont un sens, elles ont un ordre, et elles me font gagner du temps. Maintenant, je vais même te donner une logique de timing. Si à 8 minutes maximum du rendez-vous, je n'ai pas posé ma question de pain, je ne suis pas dans le bon timing. Pour tous les amoureux des 1 heure de rendez-vous, arrêtez tout de suite, surtout pendant le premier rendez-vous. Un premier rendez-vous, ça ne dure pas 1 heure. Pour tous les amoureux de la présentation pendant le premier rendez-vous, dépendamment de ce que vous vendez, bien sûr, sachez que j'ai vu une stat de Gong, le Gong Lag, qui disait que la plupart des rendez-vous qui ont des présentations avec des slides à l'intérieur lors du rendez-vous de découverte, sont des rendez-vous qui amènent à la non-vente. Je redonnerai le chiffre.
Ah ouais?
Mais quand on y pense, ça se tient. On fait une conversation. On discute entre personnes normales et intelligentes. Si tu me mets un slide, déjà, un, tu me défocus, et c'est plus une conversation, en fait. Tu es déjà en train de me vendre quelque chose. Or, okay, c'est pas ce que je veux.
Tu veux dire pour le call de phase découverte?
Oui.
Parce qu'à l'inverse, tu vois, parfois je vois des sales aller un peu en roue libre et faire des pitchs comme ça. C'est pas structuré. Tu peux aller regarder à droite, à gauche. Même moi, la première, en plus, suffit que tu as des problèmes d'attention. Ah, il y a quelque chose qui est passé. Ah, tu disais quoi? Voilà. Donc, en fait, oui, d'accord, sur la partie phase découverte, je suis d'accord. Okay.
Sur la partie phase de découverte, parce que c'est le moment le plus important pour recueillir des informations. Bien sûr, on pourra les recueillir, on pourra compléter à d'autres moments, et ça revient à ta question. Donc, moi, je disais, un, préparation de toutes mes questions, de tout le cheminement de mon rendez-vous. Les gens vont me dire, mais c'est un script, machin. Non, c'est pas un script, c'est une prépa. Et je mène ma conversation, il y a peut-être certaines questions que je ne poserai pas, parce que finalement, dans l'échange, elles ne sont pas adaptées, ou je vais les formuler différemment. Mais j'ai préparé.
La personne les a répondu directement voilà. Aussi, parfois. Ouais.
Et c'est ce qui me permet d'avoir une conversation. Une conversation, à l'époque, des siècles révolus en France, on avait des guides de conversation, des cartes de conversation. Alors pourquoi on a oublié maintenant? On a oublié de faire des conversations, on ne sait plus comment ça se fait. Sauf que c'est un truc qui se prépare. Et donc, ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, à la fin de mon rendez-vous, je ne peux pas sortir du rendez-vous et aller parler, un, à mon CRM, deux, à mon directeur commercial, sans avoir checké que j'ai toutes les informations de mon SPICE. Parce que du coup, ça me permet de qualifier ou de disqualifier mon rendez-vous et de savoir ce que je dois faire pour le prochain.
Ok. Une petite mini-question. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as dit que en fait, tu posais trois questions au début du rendez-vous. Max, comment tu gères justement, alors, parce que moi, j'ai pas mal écrit sur ce sujet-là, mais justement, c'est l'alternance. Moi, je suis plutôt partante de dire qu'il faut, dans un rendez-vous, de la mesure que c'est une discussion, il faut une alternance entre questions, entre réponses, pour que ce soit vraiment l'air d'une conversation. Donc, je suis aussi partisane, comme tu le dis, de trois questions. Je trouve ça vraiment pas mal, le fait de pondérer avec deux questions fermées qui te permettent de pouvoir donner envie à la personne de se dire « Ok, je suis pas là avec quelqu'un qui va me refourguer quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est sérieux, qui a fait le travail. » Voilà, comment tu gères en fait? Est-ce que tu commences à présenter le produit? Ou est-ce que tu parles? Moi, je suis plutôt tendance à utiliser des use cases, par exemple, des exemples de gens qui peuvent vivre la même chose. Par exemple, si j'ai posé ma question sur un pain, ok, effectivement, dans ce secteur-là, j'ai plutôt apporté mon expertise, ma connaissance globale du marché, sans parler de moi, sans parler de quoi que ce soit. Toi, c'est quoi ton petit truc à toi?
Mon truc, c'est que je demande tout le temps la permission de pouvoir parler d'eux ou de poser une question que j'estime que je veux mettre en valeur. C'est-à-dire que moi, ce contre quoi je lutte dans un entretien, c'est pas le fait de vouloir présenter ma solution. En général, je la présente pas. Voilà, déjà, c'est ma première réponse. Je ne présente pas ma solution en tant que telle. Ce que je présente, ce contre quoi je lutte, c'est l'engagement dans le temps. Moi, je veux marquer des moments très clairs où je veux forcer l'écoute, où je veux mettre des points en avant pour obtenir des informations qui m'intéressent et pour ensuite relier les points avec ma solution. Donc, je vais passer... on parlait de ton nouveau produit qui est stylé, d'ailleurs, les reviews. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'en écoutant beaucoup de calls, on constate que les sales font beaucoup de présentations dans des rendez-vous de découverte, ne font pas de découverte. Et non. C'est normal, parce qu'on ne leur a pas montré comment faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'étonner de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas bien ou pas comme on veut, c'est peut-être parce qu'on ne lui a pas assez bien expliqué, c'est pas parce qu'il est mauvais, et je pars de ce principe-là. Donc ensuite, le truc, c'est que moi, je demande la permission, mais je vais tout de suite dire, ce qui est intéressant, ce n'est pas moi, mon offre, c'est vous, comment vous, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez amener. Et c'est comment moi, en tant que coach, personne qui guide la conversation, je l'amène à parler de lui assez profondément pour ensuite lui dire, au regard de ce que vous m'avez dit, au regard de tout ce que vous m'avez expliqué, et si je comprends bien, reformulation, il y avait tel point, tel point, tel point, ça peut être intéressant que je vous parle de, et là, use case, ou storytelling, ou un argument avec assez de force, avec de l'image, avec des faits, avec des chiffres, pour l'amener tranquillement vers « je vais vous présenter ma solution, mais sans le dire ». Voilà ce que disent mes clients qui se retrouvaient dans la même situation que vous. Et ça me rappelle que ça me fait penser à... Et le use case, en fait, il a eu telle conséquence. Ça vous parle ? Et là encore, je vais rechercher de l'impact. Parce que tu parlais de la monotonie des questions. En fait, c'est typiquement ça. Il faut lutter contre la monotonie des questions pour l'engagement. Donc, tu vas poser tes 3 ou 2 questions de situation, ta question de pain. Tu vas écouter, reformuler, hiérarchiser pour être sûr que c'est ça. Et là, tu peux faire le lien avec ton use case, ton storytelling, ce que tu veux. Et à la fin de ce use case et ce storytelling, tu poses la question de « c'est ce type de résultat que vous aimeriez avoir ?» Question d'impact.
Carrément. Pas mal de trucs, mais on va passer au critical event. du coup, sur la partie critical event, justement, on en avait déjà un peu parlé lors de notre premier échange. Alors là encore, parce que c'est un peu à l'aune, c'est bien de rendre les choses un peu vivantes. Quand on discute entre geek sales, on prend des choses, on teste des choses chez les clients, etc. Et puis on voit en fait effectivement comment ça prend, comment ils prennent le truc. Et j'avoue que en fait, alors typiquement, je vais donner un cas très précis, une boîte que j'ai accompagnée, italienne. Où en fait, ils avaient beaucoup de mal avec cette notion de critical event. De savoir justement comment tu poses la question de à quel moment ils voudraient avoir l'impact, à quel moment ils voudraient avoir les résultats, sans être caricatural. Le côté caricatural, c'est qu'on peut entendre, ça va être, et qu'est-ce qui se passe si... est-ce que ça vous empêche de dormir si vous commencez pas ça dans un mois, quoi. Voilà. En gros, je te pose cette question-là parce qu'en ce moment, on a pu voir une tendance, je ne sais pas si tu l'as vu toi aussi, dernier quarter, généralement, depuis des années qu'on fait du sale, c'est toujours le mois qui cartonne, c'est toujours le mois où les gens font des ventes. Ce quarter-là, j'ai vu que c'était une catastrophe. Les boîtes ne voulaient pas faire de retour. Tout le monde renvoyait au mois de janvier, tout le monde renvoyait au mois de février. Et encore, je vois des boîtes qui n'arrivent toujours pas à closer des deals qui étaient dans le pipe au mois de novembre. En fait, aujourd'hui, on l'a déjà dit, on a déjà parlé, donc j'invite les auditeurs, si vous voulez savoir comment accélérer la décision, etc., d'écouter le premier épisode qu'on a fait avec Laurent. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans, au-delà du framework dont on a parlé, etc. Je ne sais pas, déjà, est-ce que tu as cet avis-là ? Comment tu fais pour poser une question pas caricaturale, qui donne envie, qui donne confiance, parce que c'est justement le moment où la personne va essayer de... Enfin, en gros, elle t'ouvre les portes de son placard, quoi. Voilà le bordel que nous, on a. Et si je vais te donner la vraie date ou est-ce que je te donne les faux éléments ? Comment tu fais pour lui tirer les vrais éléments ?
Alors, dans la logique de Critical Event, effectivement, il y a deux questions. Il y a la première qui est liée à quel moment vous voulez obtenir ce résultat ce résultat, excusez-moi, mais mon téléphone sonne et je veux pas que ça gêne. Donc, obtenir ce résultat, à quel moment vous souhaitez obtenir les changements que vous escomptez. Donc, et si on veut être plus précis, si c'est un ATS, si c'est une formation, effectivement, à quel moment vous voulez avoir les résultats de cette formation? Si on a en plus des éléments de mesure, à quel moment vous voulez que vos commerciaux soient à même de poser de meilleures questions, de faire de meilleurs closings? À quel moment? Ah ben moi, je veux que ce soit maintenant. Super. Super. Faisons, signons maintenant, monsieur. Alors, tu as une question qui... Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action maintenant? Question dure à poser. Je parlais des questions qui nous dérangent tout à l'heure.
Super dur.
Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action maintenant? Après, on va passer outre cette question, c'est juste pour le fun. Mais une fois que j'ai posé la question de à quel moment vous voulez obtenir ces résultats, il va me dire, ah bah, nanana, nanana. Peu importe la date qu'il va me dire, il faut que je le check. Toi qui es fan de basket comme moi, tu vois le check quand tu fais un jab step pour checker s'il va partir à droite ou à gauche, c'est la même chose. Je le check. Et je lui dis, si on ne le fait pas à cette date-là, ou si vous n'avez pas les résultats à cette date-là, à cette date précise, que se passe-t-il? C'est ça le check. Parce qu'il peut très bien dire une date, mais si on ne lui demande pas si la conséquence négative de ne pas respecter cette date, on ne saura jamais si c'est important ou pas. Et donc, il va me dire, ah bah, ça ne change rien, de toute façon, on était là, on était dans la merde depuis longtemps, encore un an, ça ne change rien. Hein. Mais il peut très bien dire, ah oui, non, mais là, il faut absolument qu'on le fasse, parce que on a notre rapport annuel, on a la plupart des deals de Q4 qui ne sont pas signés, on a besoin, en fait, d'aller plus loin en termes de revenus, parce que c'est une année 2024 qui est très difficile, et ça, personne ne le dit, 2024, c'est une galère. Donc, tous les deals de Q4, vraisemblablement, ils sont toujours pas signés pour beaucoup. Donc, c'est parce que c'est une galère, mais il faut poser les bonnes questions aussi pour savoir si ça vaut la peine qu'on se consacre à ces deals-là. Et typiquement, cette deuxième question, c'est ça.
Si trop bien.
Si le gars, ou la femme d'ailleurs, peu importe, est dans le vague, on peut tout de suite arrêter de se prendre la tête.
Alors, justement... Alors, si la personne n'est pas dans le vague, bon, si la personne est dans le vague, ok, on laisse tomber, enfin, on laisse tomber. En tout cas, il faut nurturer, mais ça, c'est une autre discussion et vous pourrez retrouver d'autres contenus sur ce podcast, sur ces sujets-là. Mais du coup, si justement, en fait, on a, la personne n'est pas dans le vague, il y a une chose que je remarque, en fait, dans les rendez-vous commerciaux, c'est que, ok, oui, c'est la difficulté des sales à clôturer réellement un call comme celui-ci. Ok, t'as l'impact émotionnel, rationnel, le critical event. Ok. Je sais que, bah voilà, en fait, en gros, si on fait pas ça, on pourra pas closer nos deals et on n'aura pas notre chiffre d'affaires et ça marchera pas. Ok. Mais ça veut pas dire que la personne change là. Là, on est encore dans le truc de, on a identifié. La vente, c'est plus que ça. C'est pas caricaturellement juste signer un devis. C'est, tu sais, ce moment de bascule où tu sais que tu as compris que là, c'est bon. Tu vois, avant qu'on appuie sur record, tu disais, il y a un moment donné dans ta vie de sales, tu savais, quand tu faisais un rendez-vous, à la fin, je le close ou je ne le close pas. Peu importe le moment où tu en es dans le cycle de vente. Et ça, je pense que les gens qui ont un peu d'expérience, on comprend tout ce que tu veux dire là-dedans. Évidemment, ce n'est pas une science parfaite, mais voilà. Bon. Bah, en fait, c'est justement ce moment de bascule. Quand tu as le critical event, tu ne l'as pas toujours, en fait. Comment tu fais, toi, pour t'assurer, à la fin, à partir de ce critical event, que tu perds pas la personne, parce qu'elle doit encore chercher de l'information et donc tu la perds. Comment tu fais pour la garder dans le couloir jusqu'à dire bah, tu vas tout droit et tu dévis pas.
Ok. Comment on garde le climax? Comment on garde le momentum? En gros, c'est ça. Yes. En fait, c'est pas une science exacte, hein, objectivement. Mais plus on met de la mesure là-dedans, plus c'est facile. Donc, tu te rappelles de la deuxième question que j'ai posée? Le truc, c'est que quand je vais poser cette question et que j'ai une réponse qui va être positive, c'est génial. Et là, je vais mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action. Les anglo-saxons ont parlé du MAP, Mutual Action Plan. Donc, je fais un rétro-planning qui part du moment où la personne veut obtenir ses résultats, donc le moment où elle obtient ses résultats, et je fais un rétro-planning avec toutes les actions qui nous permettent d'obtenir ce résultat avec les différentes deadlines et les personnes qui vont contribuer, qu'elles soient en interne chez eux ou en externe chez nous. Donc ça, parce qu'en fait, à ce moment-là, ce qu'on oublie souvent, c'est quand quelqu'un vient de donner une sorte d'accord, son premier mouvement, c'est de se rétracter un peu. pas forcément visuellement, pas forcément de manière audible, mais elle se rétracte un peu. Mmh. Et là, on va dire, ouais, vous faites de la psychologie. Non, c'est juste du coaching. Et donc, on doit la rassurer, on doit la réassurer dans une certaine mesure. Donc, je vais lui expliquer très clairement comment elle va réussir. Je vais lui rappeler pourquoi elle doit réussir. Et c'est ce qui s'appelle, dans une certaine mesure, équiper mon champion. Je l'équipe, je le laisse pas seul. Je dis pas, oh, ok, c'est bon, on va signer. Bon, bah, on se rappelle dans une semaine ou dans deux, trois semaines, machin. Non, je dois absolument l'équiper. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point aussi, c'est qu'on n'a pas abordé, il peut, dans certaines industries, dans certains secteurs, dans certains deals, ne pas y avoir de critical event. Et là, on va se dire, waouh, mais c'est génial votre truc. Mais nous, on n'a pas de critical event, donc ça ne marche pas, le Spiced. Et là, j'ai une réponse, parce que j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas longtemps. Moi aussi, j'ai des moments en Eureka, même si je connais bien la méthode. C'est que le critical event, si tu le relis à l'impact émotionnel, tu as beaucoup plus de chances d'en créer un. Je vais être beaucoup plus clair. Si je vends un logiciel comptable, je vais avoir tendance à attendre peut-être la fin d'année pour changer ou pour mettre en place des choses. Et encore, si j'attends la fin d'année, c'est le moment du bilan, donc il y a peu de chances pour que ça se fasse. Mais si je veux accélérer ça, peut-être que tout simplement, je devrais poser la question au DAF des différents rapports qu'il doit rendre et à quel moment. Et qu'est-ce que ça lui procure comme problème? Qu'est-ce que ça lui procure comme résultat possible si, pour la réunion avec le DG, qu'il a peut-être toutes les semaines, il a des chiffres consolidés qui sont justes, qui sont fiables et qu'il peut présenter sans avoir à faire de retraitement. Au lieu d'attendre le moment du bilan pour dire « bon, bah, finalement, je vais vous rappeler 3 mois avant le bilan pour qu'on puisse parler du changement, etc. Et il faudrait qu'on voit avec votre comptable. » Non, je vais l'amener sur quelque chose de beaucoup plus court parce qu'on pense toujours grand. En fait, ouais, c'est forcément un grand problème. Il y a des tout petits problèmes qui posent de grosses sueurs à nos interlocuteurs, mais qu'on ne veut pas voir et qu'on ne voit pas. Et donc, en reliant le critical event à l'impact et au pain émotionnel, on obtient un résultat qui est beaucoup plus intéressant parce que moi, par exemple, quand j'étais sales, le fait de faire mes reportings tous les jeudis soirs, c'était une galère. Avec Excel, machin, etc. Si j'avais pu avoir un CRM, je ne vais pas citer le nom, bien, ça m'aurait tellement sauvé la vie. J'aurais tellement passé des bons week-ends au lieu de me faire défoncer le lundi parce que mes prévs n'étaient pas bonnes. Tu vois ? Donc, ouais. C'est un truc basique, hein. Mais émotionnellement, c'est fort. Et c'est un vrai critical event qui arrive tout le temps, et de manière récurrente, auquel on ne pense pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aussi aller rechercher. C'est, au lieu de partir sur des grandes recherches qui nous complexifient, penser simple et vraiment préparer en se mettant, pas en inception, mais c'est quoi la vie de mon persona, en fait ?
C'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est... J'aimais bien, tu as une phrase, je crois que c'était toi qui disais ça, c'est... Même si tu as utilisé le mot problème, mais de dire voilà, moi ce que je cherche à faire en fait avec cette méthode-là, c'est de faire verbaliser mes prospects, leur faire verbaliser leurs difficultés, et pas forcément qu'ils me parlent de ces problèmes en fait. Ce que je veux, c'est juste qu'ils disent voilà quelles sont mes difficultés pour que moi ensuite je puisse m'en servir pour pouvoir en fait positionner ma solution et lui résoudre tout simplement ses problèmes quoi.
Il est possible que j'ai dit ça mais je ne m'en rappelle pas, mais si ce que tu viens de dire est super intéressant, c'est que tu sais la question que tu m'as posée juste avant, quand je fais mon récap de rendez-vous, parce que mon critical event, j'ai pas fini mon rendez-vous, donc quand je fais le récap de tout ce qu'on s'est dit, j'aligne sur le pain, j'aligne sur l'impact, j'aligne sur le critical event, donc je lui rappelle ces éléments-là, et j'introduis la notion de, pour arriver à résoudre ou à vous aider dans votre nouveau processus, dans les changements que vous escomptez pour vous et votre société, voilà le chemin que prennent la plupart de mes clients, voilà comment elles font pour être sûres d'arriver au résultat à date. Et là, on dessine avec lui le truc. Mais c'est pour ça qu'un rendez-vous d'une heure pour arriver à quelque chose qui ne ressemble pas à ça, c'est pas que c'est un mauvais rendez-vous, c'est que peut-être un rendez-vous où on a parlé de beaucoup de choses sans la profondeur et le sens nécessaire. Parce qu'en fait, il faut ramener ça à quelque chose de basique. Le sens et la profondeur nécessaire. Et le premier sales qui amène pas seulement de la valeur, mais qui amène du sens et la profondeur nécessaire Et le guide d'action, donc j'insiste sur la notion de coach, va remporter l'affaire. Parce que tout ce qu'ils veulent, au final, c'est qu'on les rassure sur le fait que oui, c'est possible de réussir, et voilà comment d'autres l'ont fait, et voilà comment on va le faire, comment on va le faire ensemble.
Il y a un chiffre dont j'aimerais parler, c'est, je crois que c'est Gong aussi également, je crois que j'ai dû le lire là-dessus. Je crois que 80% des prospects estiment qu'un rendez-vous avec un commercial, ça ne sert à rien. Donc, en tout cas, franchement, ce chiffre-là
me tue. Ils nous ont pas parlé.
Ouais, c'est pour ça. Mais ce chiffre-là me tue. À chaque fois que je regarde, je me dis waouh. C'est... Il y a toujours besoin de commerciaux, mais visiblement, nos prospects, nos clients n'ont pas envie de nous parler. En tout cas, c'est pas agréable pour eux. Du coup, c'est pour ça que en fait, j'ai envie, tu vois, d'un peu plus parler. Et toi aussi, tu le fais beaucoup sur tes réseaux, de parler de closing, de mettre. Et puis c'est en ça, je trouve que ton métier commence à devenir intéressant, parce qu'être présentateur, bon, bah, voilà, c'est pas très 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 intéressant. Et là, on noue des vraies relations et des relations qui durent. Je pourrais te faire une petite aparté, mais moi, il y a des gens que j'ai closés il y a littéralement 10 ans qui me demandent des nouvelles aujourd'hui sur qu'est-ce que je commercialise aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace qui suivent, parce qu'en fait, j'ai eu une discussion hyper intéressante il y a 10 ans. Alors, je ne parle pas de mes premiers rendez-vous qui étaient catastrophiques. Faut être honnête. Mes premiers rendez-vous, je crois, premier rendez-vous avec Alten, je pense que c'était le pire de toute ma vie. et je pense que le DRH de Alten de l'époque, qui aujourd'hui a encore une bonne posture, je crois, s'en souvient encore. Donc, il doit, à mon avis, quand il doit voir mes posts sur LinkedIn, il doit dire « Mais attends, elle était toute nulle, cette fille-là. Mais on va dire qu'en tout cas, quand j'ai commencé à m'améliorer, et en vrai, quand on a des bons rendez-vous, c'est des relations qui durent. Peu importe, en fait, qu'on vende la même chose. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est un peu un truc que je dis pour motiver les gens à mettre un peu plus de structure, en fait, dans les rendez-vous. Parce que quand on parle de spiced, de médic, les gens se disent « Oh là là, c'est compliqué. Finalement, les gens… Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, qui pensent ça, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, il faut arrêter, hein, c'est un peu bullshit, etc. Bon. Qu'est-ce que tu leur
dis ? Déjà, je vais leur rappeler un truc. Arrêtez avec vente. Ça va vous sauver la vie, je pense.
Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de Médic, parce que Médic, ça va quand même, c'est solide.
Non, mais Médic, c'est solide. On peut dire ce qu'on veut, Médic, c'est solide. Et ça me permet de dire un truc, c'est que Spiced, en fait, ça reprend énormément, c'est un syncrétisme de différentes méthode de vente. Ça reprend du value selling, ça reprend du consultative selling, ça reprend du provocative selling, ça reprend du spin selling, parce que le questionnement dans la vente, c'est quand même spin qui l'a formalisé, théorisé, amélioré, tout ce qu'on veut. Donc, et Médic, en fait, c'est vachement cool. Le seul problème, c'est pas un problème, le seul truc que je vois avec Médic, c'est que ça s'arrête à la vente. Et moi, ce que je dis par rapport à Spice, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui l'ont pensé, qui l'ont créé, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne aussi bien au niveau lead qu'au niveau customer success, c'est-à-dire je vais faire de la prospection, je vais signer, ça va être juste au milieu, là au niveau de mon menton, la signature, et quand on est dans le SaaS, on sait que la signature, en fait, c'est pas que c'est rien, mais la lifetime value de ton client, elle arrive à entre 73% après la première signature. C'est là où il y a le plus de lifetime value, c'est après la première signature ou après. Donc, parce qu'on fait du SaaS et qu'on fait du récurrent. Et s'il n'y a pas de récurrent, ben en fait, on meurt. Donc, ça, c'est le premier truc. Et donc, Médic, lui, va s'arrêter à la vente, entre guillemets, et alors que Spiced va, lui, être sur l'ensemble de la vie de l'entreprise pour lui apporter de la valeur et faire en sorte que tout le monde parle la même chose. Donc ça, c'est un premier point. Pour déjà, c'est pas simplement... En fait, si on veut que les sales adoptent une méthode, peu importe laquelle, et pas Bant... Bon, je suis désolé, je l'ai dans la tête, j'ai dans le viseur, c'est mort. Mais si on veut que les sales l'adoptent, il faut que leur manager l'adopte. Pour que les managers l'adoptent, il faut que la direction l'adopte. Donc, quand moi je fais une action, je m'incruste dans les réunions commerciales avec les managers, avec les directeurs, parce que justement, c'est la meilleure manière de réussir, parce que je dois leur diffuser ça pour qu'eux-mêmes le diffusent en interne et que tout le monde puisse l'adopter et qu'on comprenne que c'est simple. Maintenant, c'est comme, je vais prendre un exemple basique, hein, si je veux réussir quelque chose, un examen, peu importe quelque chose dans la vie, je suis obligé de me préparer. Je suis obligé d'avoir des guides pour m'aider. Je ne peux pas juste y arriver comme ça, ou à moins que je sois un génie, mais je ne vais pas juste y arriver comme ça. Et c'est la même logique avec la méthode, peu importe ce qu'elle est, si je prépare, je peux plus facilement gérer l'imprévu, gérer une réponse, une question qui n'est pas dans le cadre. Mais comme j'ai mon assise avec ma préparation, je peux gérer ça de manière hyper agréable. C'est comme avec la gestion du temps. Plus je planifie, plus j'ai de la liberté, plus j'ai du temps pour faire autre chose. C'est exactement ça. Il ne faut pas le voir comme une contrainte. Au contraire, c'est quelque chose qui nous libère. Et ça ne veut pas dire que je dois absolument, dans tous les cas, ressortir avec toutes les réponses du SPICE. Ça veut dire que je dois faire le maximum pour baliser mon SPICE et me dire, OK, sur ce temps 1, j'ai tout ça. Ça me permet de construire, c'est génial. Et sur ce temps 2, j'irai chercher ça et ça me permettra de continuer à construire et de l'amener vers la résolution et la réussite qu'il veut pour son entreprise et pour lui. C'est aussi simple que ça. Il faut pas être rigide et dogmatique au point d'empêcher les gens de fonctionner. C'est un guide, un appui, et plus on obtient des résultats, plus on se rend compte que c'est génial. Alors moi, je vais te donner un exemple qui va te faire rire. Imagine que des commerciaux qui vendent au téléphone sur un appel fassent du SPICE. Tu vas me dire, mais c'est pas possible. Oui, d'accord. Logiquement, c'est pas possible.
Quelqu'un qui fait du call-call. Quelqu'un qui fait le call-call. Si justement, en fait, pendant que tu étais en train de me parler, j'étais en train de me dire, OK, qu'est-ce que je ferais? Comment j'utiliserais SPICE dans ma prospection? Et notamment, je fais du call-call aussi. Et aussi également du cold email ou même de l'outreach LinkedIn. Je dirais, comment je pourrais utiliser SPICE? Donc, pendant que tu parlais, j'étais en mode essayer de réfléchir et j'étais bloquée en disant, OK, situation, OK. Pain, OK. Impact, plus compliqué. Sauf si je parle d'un de mes clients. Voilà. Critical event, là, ça commence à compliquer. Et decision aussi.
OK. Ouais. Alors, je vais te donner la réponse. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te l'enverrai. Okay. Je ne l'ai pas envoyé à beaucoup de monde. J'ai fait pour un client. Je te l'enverrai parce qu'elle est vraiment cool. Mais je vais te répondre. Mais d'abord, je vais juste finir mon idée sur le truc d'avant. C'est, j'ai formé, là, l'année dernière, des commerciaux qui faisaient du one call closing avec du SPICE. Et donc, j'ai pas mis tout au même moment, mais il se trouve qu'ils ont appris du SPICE sans s'en rendre compte. D'accord ? Je mettais des éléments, je ne mettais pas le nom forcément de la méthode, mais ils sont imbibés sur le customer-centric, le fait d'aller chercher un pain, le fait de faire une conversation, le fait de s'intéresser à l'autre, et le fait de chercher des impacts possibles. Eh bien, tu sais quoi ? Je discute encore avec l'un d'eux. Il me dit, Laurent, décembre, j'ai fait 200% globalement de mon objectif. C'est-à-dire qu'au téléphone, le gars, il a généré 70K. Au téléphone, avec à chaque fois, il doit vendre en un appel. Donc, c'est pour donner la puissance du truc. Mais la puissance du truc, c'est pas moi, c'est pas la méthode. C'est toi, quand tu arrives à l'incorporer à ce que tu aimes faire, à comment tu aimes le faire, et quand tu mets du sens et de la profondeur là-dedans. Donc ça, c'est le point de départ. Maintenant, pour répondre à ta question sur comment on fait typiquement dans nos process d'outreach, dans nos process comme ça, c'est quand je fais mon travail de persona, et tu te rappelles du prompt que je t'ai passé sur le persona, ouais. Là, voilà. Tu vois, alors pour ceux qui ne savent pas, je m'amuse beaucoup avec l'IA, et il y a des prompts que je balance comme ça. Et donc ce prompt-là, même s'il n'est pas de moi, mais je l'ai un peu amélioré, il permet en fait, à partir d'un persona et d'une entreprise, de définir justement le pain, émotionnel, rationnel, l'impact émotionnel, rationnel, critical event, nanana, etc., tout ça. Mais une fois qu'on a ça, c'est pas tout en fait. C'est comment je l'utilise. Pour construire ta séquence d'outreach, tu vas partir de ce qui pose le plus d'interrogations à ton interlocuteur. Ce qui pose le plus d'interrogations à ton interlocuteur, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc je vais commencer mon outreach avec l'impact émotionnel. D'accord ? Et vraisemblablement, j'en ai pas qu'un. Potentiellement. Donc, je vais d'abord parler d'impact émotionnel, ensuite, je vais parler de pain émotionnel, impact rationnel, pain rationnel, et je peux même commencer, si j'ai vraiment une bonne identification du marché, du secteur et de l'entreprise, commencer par ce qui pose encore le plus problème, le critical event. Et en fait, c'est ça. Je vais, dans mes messages, que ce soit au téléphone ou texte, ou vocal aussi, je vais utiliser ces éléments-là, en fait, pour aller chercher mon outreach. C'est-à-dire que souvent, on va te dire « Ah ben moi, je vais utiliser le trigger de « il a changé de poste, il s'est passé ça dans son entreprise ». Mais ça, c'est le niveau basique du sales. Et c'est pas méchant, hein. C'est le niveau basique du sales. C'est facile de voir ça. Et puis après, on va dire « Ah ben, je vais le personnaliser. J'ai vu sur LinkedIn que vous aviez changé de poste, nanana, nanana. » En tant que directeur, vous devez rencontrer ce problème de recrutement et de ramp de vos sales, d'onboarding de vos sales et de les propulser vers la réussite. Ouais, super. Il ne va pas te répondre. Par contre, si tu lui dis, on va le dire comme ça, c'est bonjour, XY, à la fin de Q4, vous aimeriez que, à la fin de Q4, vous devriez normalement avoir fait plus 20% par rapport à votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est bien le cas? Si c'est le cas, j'ai trois éléments qui pourraient vous aider, que j'ai mis dans un PDF. Est-ce que vous voulez que je vous les envoie? Machin. Le 20%, tu vas me dire, il sort d'où? Je fais un calcul par rapport à son marché, par rapport à son produit, et à ce que pourrait être une progression normale, et par rapport à sa masse de commerciaux. D'accord? Mais tout de suite, je mets Q4 et je mets la progression. Je ne dis pas que c'est l'objectif qu'on lui a donné, mais son critical event, c'est Q4, ou c'est Q1, ou c'est Q2. En tout cas, c'est le quarter. Si je vois que l'entreprise, elle est plutôt sur des...
Du recrutement, par exemple.
Mais si je vois surtout qu'elle est sur un marché qui est plus piloté au mois, je ne vais pas prendre le quarter, je vais prendre le mois. Tu vois ? Mais en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment penser comme son persona et qu'il faut aller au-delà du persona, et dédicace à José Lito pour le job to be done. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'il cherche à accomplir. Et donc, mon critical event, là, il me sert à quelque chose. Je pourrais faire avec le pain, je pourrais faire avec l'impact, mais c'est ça, en fait. Et tu vas me dire, mais naturellement, je le fais. C'est juste que tu n'avais pas mis le nom dessus.
Yes, carrément. Non, mais en même temps, et puis même, tu vois, de se mettre en une méthode comme ça et de faire comme tu dis, ça permet... Parce que, en fait, c'est facile d'arriver dans des trucs basiques. Surtout quand, alors je sais que tu n'aimes pas trop cette notion de produit nice to have, etc. Mais c'est une réalité, moi, je trouve. Il y a des produits, il y a des moments, je sais que tu n'aimes pas trop pour
Non, en fait, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est qu'en tant que sales, je pense qu'on doit être convaincu que notre produit est un must have.
Ouais, mais alors moi, alors j'accompagne des boîtes aujourd'hui, donc il y a des moments, j'arrive à faire la différence, etc. Et non, et en plus, par ailleurs, je veux le dire, beaucoup de gens ici savent que j'ai monté une première boîte qui s'appelle C-Cube. C-Cube, je le dis clairement, et voilà, j'adorais ma boîte. C'était une boîte extraordinaire, c'est une boîte qui m'a donné beaucoup de choses, et c'était un nice to have. Et c'est ce qui fait que j'étais extrêmement bonne en vente. Parce que ce n'était pas le produit que tu prenais par rapport à un Hello Work ou un LinkedIn, tu vois. Voilà.
Tu sais, dernièrement, j'en parlais et tu l'as vu, tu sais, où je parlais d'une stratégie qui était d'attaquer les forces. Que dans les forces de tes concurrents, il y a des faiblesses et c'est ces forces-là, et c'est ces faiblesses dans les forces qu'il faut attaquer. Quand tu es C-Cube et qu'effectivement tu es un produit de salon virtuel, et que les autres sont des job boards, font ci, font ça, font aussi pour certains même du recrutement, tu sais, en sourcing, en fournissant un vivier de talent. En fait, dans tout ça, il y a des faiblesses. Parce que si tu es un job board et que tu fais énormément de choses, dans quoi tu es vraiment spécialiste?
Complètement.
Ça, c'est sur le premier truc.
Ouais, bien sûr. Voilà.
Ça, c'est le premier truc.
Et puis la qualité des profits.
La qualité, machin, etc. Donc, en fait, en étant un nice to have, c'est-à-dire en arrivant dans un marché où les gens n'aiment pas changer d'habitude, où les gens ont déjà des choses préconçues, des a priori, la jouer sur la carte du nice to have est finalement une stratégie intéressante. Maintenant, dans ton fort intérieur, comme c'est ta boîte, après tu vas me dire peut-être non, mais tu es convaincu que ça change la vie des gens, que ça leur est utile.
Bien sûr, autrement, je n'aurais pas vendu à autant de personnes, c'est sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire quand je dis c'est un nice to have, c'est dans la perception de ton prospect. Par rapport à d'autres outils, quand il décide, c'est la crise, de mettre son budget dans tel ou tel outil, tu vois bien que t'es pas au top de la liste. Donc tu fais la conclusion que tu n'es pas, hyper important comme certaines solutions. Donc, en fait, quand je parlais de nice to have, c'est que en fait, utiliser Spice, je trouve que de la manière dont tu l'as présenté, ça te pousse à ne pas aller sur des approches trop basiques et à te pousser à, tu vois, parce que parfois c'est un peu naturel. Tu sais pas trop, donc parfois tu vas aller sur des approches un peu random. En tant que commercial, vous avez probablement des problèmes à faire ceci, à faire cela. Donc voilà. Donc en tout cas, je trouve ça intéressant. Alors, on va clôturer du coup cet épisode sur Spice. Pour 2024, c'est difficile. On est sur une période très compliquée. Alors pas pour tout le monde, mais pour la majorité. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui aux commerciaux, aux head of sales qui nous écoutent pour implémenter peut-être pas toute la méthode, mais en tout cas prendre des éléments pertinents de ce que tu as dit dans le temps.
Dans le temps, je pense que à implémenter en vérité, c'est assez facile. Mais si on veut réussir ce type de mise en place, il faut aller là où les gens passent le plus de temps. Et j'espère que c'est le CRM pour les commerciaux. Donc, en fait, installer deux choses. Un template, un modèle de compte-rendu de rendez-vous où on a ces éléments spiced, ce qui permet à chaque fois de s'y référer et de se dire « Ah, ok, j'ai ça, j'ai pas ça, machin, etc. » Et dans le CRM, de retrouver une structure de rédaction, pas de rédaction, mais de compte-rendu ou de mise en place des informations qui soient alignées sur ça, spiced, tout simplement. Et quand je vais faire mes réunions avec mes sales, poser la question de... alors, dépendamment du type de réunion, est-ce que c'est des réunions, on va dire, sur les objectifs ou des réunions sur les deals? Alors moi, en tant que DIRCO, j'avais rarement des discussions sur les objectifs, j'avais plutôt des discussions sur le comment. En fait, c'est aussi ça, c'est aller sur du comment. Et quand on discute de comment, ben forcément, on va parler un peu plus de la méthode, de rentrer en profondeur sur comment tu poses la question, est-ce que tu as posé la question, est-ce que tu as cette information, comment tu pourrais faire pour l'obtenir. Et là, c'est plus intéressant de le faire comme ça. Et ce n'est pas des gros changements en soi, c'est une posture, c'est aussi une volonté de le faire. Après, quand on a beaucoup de sales, ce n'est pas évident. Quand on a un peu moins, ben, on peut se dire qu'on peut le faire. Puis après, on va se dire, mais ça prend du temps de mettre ça en place. Bah, c'est, en gros, c'est 6 lettres. Donc, ce n'est pas un truc de fou. Hein. Et pour moi, je témoigne pour moi. Moi, j'étais pas quelqu'un qui faisait du spice avant. Hein. Et je n'étais pas non plus accro d'une méthode, donc c'est peut-être ça qui m'a aidé. Mais quand j'ai découvert Spiced, mais c'était...
En vrai, une des raisons pour lesquelles je voulais faire cet épisode, évidemment, il y a plein de gens qui parlent d'autres méthodes, médiques, etc. Mais ce que je trouve, en fait, sur le terrain, c'est que finalement, il y a peu d'équipes qui ont vraiment une méthode ancrée dans le marbre. Donc, il y a de la flexibilité. De toute façon, ça se teste. Peut-être que ça marche, peut-être ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Moi, je pense que ça marchera parce que je l'ai mis en place. Ça marche, c'est plus puissant. J'utilisais Medic avant, donc en fait voilà, j'ai une bonne connaissance des méthodes de vote et je trouve que celle-ci est assez puissante, notamment dans un contexte où c'est difficile d'obtenir des réponses et des retours en fait de ses prospects.
En fait, moi je le teste, ça marche. Les entreprises que j'ai accompagnées dessus, ça fonctionne bien. Imagine que tu reçoives un Slack et qu'on te dise je te remercie, j'ai signé un deal à 1 million d'euros. Moi, ça m'est arrivé en début 2023, j'ai reçu un Slack comme ça, j'étais dingue. En plus, on m'a dit, ouais, mais c'était grâce au conseil que tu m'as donné sur le closing, et j'associe Maxence à ça, parce qu'il était avec moi sur cette action, donc grâce au conseil que Maxence et toi, vous m'avez donné sur le closing, et voilà, c'est une satisfaction incroyable.
Incroyable, ouais, super.
Tu vois, bah, et c'est pas pour dire que tous les deals ne sont pas 1 million d'euros, mais je pense que ça frappera plus les gens si je dis ouais, mais il a signé un deal à 1000 euros, il était super content, il a appliqué Spice. Non, ça arrive aussi. Mais là, c'était 1 million. Donc, et l'autre truc, c'est que franchement, c'est pas une méthode compliquée. Là où c'est compliqué, c'est que ça nous oblige à aller plus profondément, mais comme toutes les méthodes en vérité, ça nous oblige à préparer. Parce qu'en fait, le vrai secret de la réussite pour un sales et pour faire en sorte que 2024 soit une année plus facile, c'est de préparer. Et là où Spiced, en fait, a de la puissance, c'est que dans la préparation, on sait quoi préparer, on sait comment le préparer, et ça n'a rien de complexe. C'est ça, yes. L'avantage.
On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu. Merci pour tout le partage.
Merci de m'avoir invité.
Bah, avec plaisir. Je remettrai dans la description ta newsletter qui s'appelle Merci. Spice d'ailleurs.
Oui, c'est la Spice newsletter. J'avoue, il faut que je sois un peu plus fréquent. Mais si les gens ont envie de suivre un peu l'actualité, moi je suis basé à Montréal, je suis donc au Canada. Je viens de temps en temps en France, mais je suis quand même beaucoup plus sur ce marché-là, même si j'interviens avec beaucoup de startups et scale-up en France. Mais donc, si vous voulez me parler, bah, pour tous les Montréalais, je suis là. Et donc, le nom de mon entreprise à Montréal s'appelle le Gym pour la vente, parce que je pense que les commerciaux doivent s'entraîner et se préparer.
Yes. Suivez-le aussi également sur LinkedIn. Il y a normalement une petite nouveauté qui devrait arriver.
C'est
du coup, un nouveau contenu sur la vente francophone qui va faire du bien. Donc voilà, bah écoutez, merci. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez plus de contenu pour générer plus de rendez-vous, pour closer plus de deals, vous savez ce qu'il faut faire. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée ou sur la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.